helper sucker. Helper sucker.
Bonjour tout le monde, nous voilà de retour pour un nouvel épisode de CSA l'érable. On a pris 2 semaines de congé bien mérité, Daniel et moi, mais cette fois-ci, on est de retour et on a décidé d'amener un invité de marque aujourd'hui avec nous. On a avec nous Freddy Amegavi qui est commentateur au CEPSOM. Salut Freddy, ça va bien aujourd'hui?
Salut, bonsoir à tous. Oui, ça va très bien, merci.
Ben, parfait, on est très heureux de te recevoir. Daniel, ça fait longtemps, tu vas bien?
Oui, ça va bien, merci Heidi. Toi et petit coucou à Freddy.
Salut Daniel.
Donc c'est cool. Donc aujourd'hui, après plusieurs demandes de plusieurs de nos followers qui nous demandaient un peu comment se marchait le système un peu universitaire québécois et canadien, ben Freddy est la personne ressource qui pourrait un peu nous aider et nous expliquer un peu comment ça marche. Donc je vais te présenter un peu Freddy, mais j'aimerais beaucoup que tu te présentes toi aussi plus spécifiquement. Je sais que tu es commentateur au CEPSOM. Donc, le CEPSOM, c'est le Centre des sports de l'Université de Montréal. Tu peux nous parler un peu de ton travail? Comment tu es arrivé à ce poste-là? Et à quoi consiste ton travail?
Oui, alors, donc voilà, je commente les matchs des Carabins de l'Université de Montréal ainsi que ceux du réseau francophone U Sport, c'est-à-dire tout le secteur universitaire canadien en français lorsqu'il y a des championnats canadiens. Depuis 2017. Donc, quand il y a des championnats canadiens de foot soccer, à chaque édition, sauf l'édition de cette année où il n'y en a pas eu, en français, c'est moi qui la commente depuis maintenant 3 ans. Donc, au CEPSOM, comment ça se déroule pour les Carabins, l'équipe Fagnon de l'Université de Montréal. C'est à chaque match à domicile que je prends place en loge, en tribune, et le match est commenté en direct sur YouTube. Donc, je le fais depuis maintenant 2014. Et donc, c'est d'écrire de la meilleure manière possible l'action sur le terrain et tous les protagonistes qui s'affrontent.
Parfait. Et est-ce que tu le fais pour les Carabins du côté masculin et féminin ou juste masculin?
Du côté masculin et également féminin. Alors, une journée traditionnelle de match dans un calendrier régulier, c'est toujours match garçon et ensuite suivi de filles et ou l'inverse. Donc, si c'est un match en semaine, par exemple, le vendredi soir, le premier match à 18h, ce sont les filles qui commencent. Donc, leur match est commenté. Leur match finit vers environ 19h45, 20h lorsqu'il n'y a pas de prolongation. 30 minutes après, c'est le début des messieurs qui, eux, jouent jusqu'à 22h30. Inversement, le dimanche, les garçons commencent à 13h pour aller jusqu'à 14h30 et à 15h, ce sont les filles qui embarquent jusqu'à 17h. Donc, c'est à peu près ce format-là qu'il y a à chaque journée de championnat, sauf pour une université qui s'appelle Bishop, qui se trouve à Lennoxville, proche de Sherbrooke, et qui, elle, n'a qu'un seul programme exclusivement féminin de soccer. Donc là, à ce moment-là, il s'agit de commenter l'action seulement de l'équipe féminine.
D'accord, c'est très intéressant tout ça. Donc, je suppose que toi, tu as dit que tu as l'habitude de commenter ces matchs-là lors du championnat national, donc U Sports, qui est là. Est-ce que, par exemple, pour U Sports, est-ce que aussi tu commentes toutes les équipes de la région du Québec, donc pas juste l'Université de Montréal ou juste l'Université de Montréal quand ils participent? Genre, par exemple, je sais que l'année passée, on a eu Trois-Rivières qui était là, Cap-Breton qui était là. Est-ce que toi, tu offrais les commentaires en français aussi?
Oui, les commentaires en français pour tous les matchs exclusivement. J'ai eu la chance d'avoir avec moi l'année passée la gracieuseté de Geoffrey Jouvin qui, lui, commente les matchs pour les Patriotes de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et Geoffrey m'avait invité pour la finale provinciale qui se tenait à Trois-Rivières, Carabin, Université du Québec à Trois-Rivières. Et donc, pour les Canadiens qui ont suivi une semaine après, vu que c'était au CEPSOM, je l'ai invité à commenter. Donc, on était deux commentateurs pour la partie francophone et on a commenté tous les matchs, autant les matchs de York University que de UBC, l'Université de la Colombie-Britannique. On a commenté tout, absolument tous les matchs jusqu'à la finale Carabin de l'Université de Montréal et Patriotes de l'UQTR. Donc, tout en français.
Parfait, juste comme ça, juste pour le fun, tu préfères ça commenter tout seul ou est-ce que tu préfères être accompagné? C'est toujours mieux de le faire à deux ou à une personne, c'est mieux?
Ben, c'est sûr que dans la vie, c'est toujours mieux lorsqu'on est accompagné, tout simplement parce que lorsqu'il y a une interaction passionnée et positive, le spectateur le ressent encore plus. Alors que lorsque tu es tout seul, et je prends un exemple encore d'un championnat canadien ou les deux championnats canadiens précédents, 2017 et 2018, que j'ai fait pratiquement tout seul, c'est sûr qu'il faut relancer l'action à chaque fois. Alors que lorsque tu as toujours un binôme et qu'il y a une symbiose qui se crée, cette fameuse chimie que tout duo de commentateurs recherche dans sa vie, ça donne encore une ambiance encore meilleure pour le téléspectateur, tout simplement.
Et lorsque tu participes, tu as participé en 2017 et 2018, tu t'es déplacé, tu es allé sur place là, à Vancouver en 2018, je crois.
Exact. En 2017, c'était à Kamloops, en Colombie-Britannique, et en 2018, c'était à Vancouver. Les deux fois, j'y étais pour les messieurs. Et j'étais sur place, alors tu arrives en même temps pratiquement que les délégations, tu participes au banquet, tu peux ainsi prendre l'information sur les autres universités, les joueurs à suivre, ça t'aide pour ton analyse d'avant-match et de match, et ensuite place le lendemain, place au spectacle, et tu commentes les matchs à l'appel, boum, le premier match à 13h, le deuxième à 15h, le troisième à 17h, et ensuite celui à 19h, et ensuite le lendemain, les consolations et les demi-finales, consolations le surlendemain, et enfin le dernier jour, le quatrième jour, les finales, et après tu repars.
Donc 10 litres d'eau par jour, c'est ça?
Ah oui, tu finis avec la langue pendue, plus de voix, plus rien, à force d'avoir donné de la passion pour tous les matchs. Et après, au niveau, c'est sûr que au niveau des connexions, on présume souvent que le reach au Québec des spectateurs va être atteint, surtout lorsque c'est les représentants québécois qui jouent. Donc, c'est sûr que à ce moment-là, pour entrer dans le chauvinisme, là, l'accent va vraiment être mis sur ceux qui jouent parce que, bien entendu, je les connais plus. Mais on va dire que pour l'essentiel, j'essaye de ne pas faire de différence pour chaque match. Ça peut être un illustre joueur qui vient des Dinos de Calgary, passant au remplaçant du remplaçant qui entre en cours de jeu pour Trinity Western. Il faut mettre la même passion au nom du juste par respect pour le spectateur.
Ben, c'est sûr, la neutralité va de mise pour un commentateur, donc c'est sûr. Excuse Daniel, tu avais une question.
Oui, excuse-moi, parlant de passion, d'où ça t'est venu cette passion pour commenter les matchs?
Ben, c'est sûr que plus jeune, c'est lorsque tu regardes Thierry Roland, lorsque tu regardes à Canal+, t'avais des Denis Balbir, Grégoire Margoton, Jean-Charles Sabatier, l'équipe du dimanche. Moi, je sais qu'un de mes idoles, c'est Jean-Charles Sabatier, parce que pour sa façon de prononcer les noms allemands, lorsqu'il y avait un but, il te disait « Michel Ballack !» Oh, c'est comme truc. Mais après, t'avais Girardi qui avait son timbre de voix, tout ça. Puis après, en vieillissant, j'ai plus emprunté les célébrations de but, par exemple au Latino, lorsqu'il y a un but, de pouvoir faire un fameux goal secondes. Dernièrement, ce que j'ai introduit il y a 2 ans que je trouvais fascinant, c'est lorsque je regardais les matchs de Bein Sports. Les matchs de Bein Sports, maintenant, je les regarde qu'en arabe parce que j'adore chaque fois qu'il y a un but, lorsque c'est dit Hello, pop, 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 pop. Et donc, du coup, lorsque je fais mes célébrations de but, même au Québec, lorsqu'il va avoir un but, j'ai crié « Goal !» J'ai fait « Bop, bop, bop !» Je vais te sortir tout. Et après, je vais te parler en français. « But marqué par le numéro 15, Frédéric Laurent !» Donc après, du coup, ça te donne un spectateur qui est un peu plus excité parce que ça change de ce qu'il voit d'habitude sur ces canaux traditionnels. Puis ça te dit, mais c'est qui ce fou qui en guillemets, qui enjoy même pour un but du 5-1 marqué à la 92e et qui se permet d'y aller, de relancer, de faire des critiques. Donc tout ça, c'est venu avec un commitment. Et dernièrement, je me suis rendu compte aussi que peut-être par le vécu, tout le monde a connu les dessins animés Olive et Tom, Captain Majid ou
Ouais.
l'École des Champions. Ben, je vois dedans qu'il y a toujours un commentateur qui te commente l'action, genre qui dit, ah, il prend le ballon, il passe à ceci, il passe à cela. Donc, dernièrement, je me suis dit, tiens, peut-être que ces influences-là, elles étaient là tout au fond. Et lorsqu'en 2014, à l'Université de Montréal, ils ont décidé de diffuser les matchs, naturellement, il y a du monde qui m'ont dit, toi, tu serais bon pour ça, postule. J'ai postulé. La première année, j'étais analyste. Il y avait un commentateur avec moi. La deuxième année aussi. La troisième année, on a dit, bon, là, tu le feras tout seul. Donc, c'est à ce moment-là, tu te dis, mais comment tu vas faire pour garder le spectateur en haleine, tout ça, tout ça? Puis, j'ai dit, ben, regarde, je vais agir comme un gérant de bistrot. Donc, je vais te commenter le match comme si tu étais à côté de moi. Donc, par exemple. Elle dit, je vais être là comme ça, je vais être à côté. Puis s'il y a un petit pont, oh là là, oh le délicieux petit pont, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, laissez-moi observer une minute de silence parce que, aïe, 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 nous avons là une tentative de destruction de l'athlète. Comment va-t-il s'en sortir? Et en fait, là, c'est là que le spectateur, ça le fait sourire parce que je te parle comme si tu étais à côté de moi, sans tomber vraiment dans cet excès, dans cette familiarité. Puis. Au fur et à mesure, il y a du monde qui te donne des retours, qui disent qu'ils sont vraiment contents, que ça les change. Puis après, le défi, c'est de toujours les tenir en haleine, même si des fois, tu peux avoir des matchs totalement insipides. Entre nous, là, des matchs totalement insipides le dimanche après-midi où c'est le 0-0, il fait chaud, il n'y a pas d'action. Mais à ce moment-là, c'est de même pas hésiter à venir et puis à dire, ah là là, mesdames et messieurs, je sais que comme moi, vous êtes devant un simulacre de faux spectacles, mais il faut quand même encourager les poulains parce que ce n'est pas facile après avoir. Voilà, c'est dédramatiser tout ça et tout en donnant envie au spectateur de ne pas quitter son poste.
Ben oui, c'est sûr, c'est sûr. Donc, la patte, Freddy Amegavi, c'est vraiment faire en sorte de s'imaginer qu'en fait, les spectateurs, les téléspectateurs sont près de toi. Donc, c'est ta patte-là. Donc, s'assurer que tu es dans un bistrot et tu es en train de parler à ces spectateurs-là, c'est une très belle manière de voir les choses. Puis, j'aime vraiment, vraiment cette approche-là. Puis, vraiment, j'ai jamais eu la chance encore de t'écouter, bizarrement, là. Mais pourtant, je suis déjà allé voir des matchs. Bah, au CEPSOM, mais je te dis franchement, je savais même pas que les matchs étaient commentés. Donc, tu
Ben,
m'apprends quelque chose.
ça c'est justement, c'est un des, je pense, des points sur lesquels on doit un peu plus travailler au niveau du CEPSOM parce que y en avait beaucoup qui me disaient, on savait pas que c'était commenté parce que nous on les mettait sur YouTube. Quand je me suis rendu à Trois-Rivières à l'invitation de Geoffrey Jouvin qui avait commenté les Canadiens avec moi, je me suis rendu compte que eux le diffusaient sur leur page Facebook, donc tu avais un reach plus d'auditoire. Et donc c'est ça, c'était vraiment comme il n'y a pas vraiment une grosse publicité qui est faite autour de ça. Et donc il y a plein de monde. Tant que tu ne m'entends pas te faire une célébration de but, tu vas pas savoir que c'est moi. C'est-à-dire on peut être assis ensemble dans un couloir, tu vas parler de soccer, puis je vais te dire, ben, c'est moi qui le fais depuis 6 ans. Ben, et tu sais, la personne s'est retournée, va me regarder, va me dire, ah bon, puis tu sais, là, il faut que tu mimes. Bon. Juste de ce côté-là, c'est pas trop grave parce que le but non plus, c'est pas rechercher la célébrité par rapport à ça. Mais c'est ça, comme curieusement, que tu me dises, je ne savais même pas que c'était diffusé. Ben ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas parce qu'on ne met pas beaucoup de points d'honneur à diffuser, que le match il va être diffusé. Puis quelque part aussi, il y a une dynamique qui entre en ligne de compte, c'est qu'au Canada, on est dans un jeu d'espions. Je m'explique parce que lorsqu'un match finit d'être diffusé, le plus souvent, pas tout le temps, mais le plus souvent, du côté par exemple des Carabins, il est enlevé des ondes. Ça veut dire que tu ne vas pas retrouver, si tu tapes sur YouTube des matchs des Carabins, tu vas plus retrouver des matchs de 2014, 2015 et tout. Et le reste est enlevé. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte, d'après ce que j'ai pu comprendre, que même dans les autres provinces, une fois que les matchs sont terminés, ils sont retirés. Donc, pour éviter l'espionnage, pour éviter de voir comment les adversaires y jouent. Après, bon, les coachs, ils doivent quand même, dans les principes, se les partager via une plateforme dont j'ai oublié le nom. Je sais plus si c'est Huddle ou un sort de VMO. Mais pour le téléspectateur, souvent, il y en a qui me disent « Ah, je cherche à revoir le match, je ne le trouve plus. » Ben, j'ai dit, c'est qu'on est une année de championnat canadien, puis en étant au Québec, si on n'a pas accès aux matchs des équipes de l'Ontario ou des Maritimes, pourquoi est-ce que nous, on laisserait nos matchs en ligne, vous comprenez? Donc, c'est ceci qui explique un peu cela. Et donc, pour les téléspectateurs, il n'a pas le choix que d'être présent le jour J et d'être au rendez-vous.
Ouais, d'accord. Donc, ça te donne quelque part aussi un certain phénomène de rareté aussi, qui est quand même assez intéressant. Mais parlons, tu nous parles un peu du championnat local, juste pour nos auditeurs ici. Le championnat ici national, donc tu parles du championnat U Sport. Tu as dit que cette année, il n'a pas été disputé à cause, bien évidemment, de tout l'effet pandémique mondial. Mais c'est bien un championnat qui se dispute chaque année, n'est-ce pas?
Oui, c'est bien un championnat qui se dispute chaque année. Et ce championnat est disputé la première semaine de novembre. La première semaine de novembre, il se dispute du mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Il se dispute du mercredi. Attends, si ma mémoire est bonne. Je pense non. Jeudi, vendredi, samedi. Il finit toujours le dimanche. Donc, il commence le jeudi avec les quarts de finale. Le vendredi, les demi-finales. Et les matchs de consolation. Le samedi, c'est encore des matchs de consolation pour les dernières équipes pour voir qui finit 5e, 6e. Et le dimanche, c'est le match pour la 3e place et ensuite la finale.
D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler un peu du format de ce championnat national-là? Comment il se qualifie et comment les universités se qualifient à ce championnat national? Puis après, bien évidemment, je pense, on découlera de là vers le championnat provincial à ce moment-là.
Alors, comment que ça marche? C'est les équipes dépensent. Il y a comme une sorte de ratio. Donc, par exemple, toutes les équipes ne sont pas en nombre égal. Je m'explique. Tu as le champion des Maritimes qui est représenté, le champion du Canada Ouest qui est représenté, les champions de l'Ontario, ça veut dire le vainqueur du championnat et le finaliste. Et au Québec, c'est minimum le champion. Et si le Québec a eu un bon ranking, comme ces 3 dernières années où le Québec a été en finale à chaque fois, il y a également le finaliste des séries qui s'en va. Donc, tu peux te retrouver, par exemple, dans un format quart de finale, demi-finale, finale, avec, si ma mémoire est bonne, 2 représentants du Québec, 2 représentants de l'Ontario. Tu vas avoir le finaliste, des Maritimes et le vainqueur des Maritimes. Et au niveau de Canada Ouest, tu auras 2 équipes. Ou si Canada Ouest n'a pas eu un bon ranking, tu auras une équipe de Canada Ouest et l'équipe de l'Alberta qui s'est rendue au final. C'est un peu comme très compliqué, mais si vous voulez, globalement, dépendamment de ton ranking, tu as plus d'équipes au championnat canadien. Si tu es une équipe qui finit à la 6e place, pendant, on va dire, le championnat canadien 2019. Pour le championnat canadien 2020 que tu as représenté le Québec, ben c'est sûr qu'il n'y a que le finaliste qui s'en va. Sauf si tu organises le championnat canadien. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, ta place, elle est acquise et à ce moment-là, ça libère une place pour une autre équipe.
Et tu parlais du réseau québécois, là, le réseau sport étudiant du Québec. C'est un peu méconnu par une grande partie des supporters du soccer québécois. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le format de cette compétition?
Le format du RSEQ. Alors, dans le RSEQ, on a plusieurs universités qui se disputent justement le droit d'aller au championnat canadien. On a l'Université de Montréal, l'Université du Québec à Montréal, l'UQAM, les Stingers de Concordia, l'Université McGill. Toutes ces universités sont à Montréal. Après, en sortant, on a l'Université Laval à Québec, l'Université de Sherbrooke. L'université du Québec à Trois-Rivières Et si ma mémoire est bonne, si j'ai rien oublié, Laval, Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières. Donc voilà, c'est à peu près ça. 8 équipes. Et donc, ces équipes-là se disputent justement sur un format aller-retour, allant de fin août à début novembre, fin octobre, début novembre, le droit d'aller en série. Donc, tu vas jouer aller-retour chaque équipe, dépendamment de l'université que tu es. Ensuite, il va y avoir un format où les 4 premiers vont jouer les demi-finales et finales. Donc, il faut finir dans les 4 premiers pour avoir le droit d'aller en série. Donc, tu joues les demi-finales et finales. Et enfin, c'est parmi les 2 finalistes, celui qui gagne, il aura un ranking en sachant qu'il va jouer contre des équipes souvent qui sont deuxièmes lors du tirage au sort du championnat canadien. Et le finaliste, il va aller dans un pool un peu plus difficile, normalement.
D'accord, donc un peu comme le système un peu qu'on connaît un peu partout à travers la planète, que ce soit Ligue des Champions européenne ou whatever, premier joue contre le deuxième et ainsi de suite. Donc c'est quand même assez logique après le championnat national en tant que tel. Est-ce que toi tu parles que maintenant toi tu es commentateur bien évidemment lors des championnats nationaux, mais aussi tu es commentateur surtout pour les Carabins de l'Université de Montréal. Tu peux définir un peu la popularité des Carabins sur le campus de l'Université de Montréal. Étant moi-même un ancien de l'université, je peux te dire que, bah, en tout cas dans mon temps, ça fait un bout quand même là, mais dans mon temps, c'était un peu plus compliqué. Je ne sentais pas qu'il y avait vraiment beaucoup de support, tandis que maintenant, on voit quand même beaucoup plus de support qu'auparavant. Est-ce que tu peux nous expliquer cette popularité-là?
Ben c'est sûr que la popularité, les Carabins Soccer ont souvent gagné dans le passé, mais faut dire que, on va pas se mentir, on est au Québec et l'accent est beaucoup mis sur le football américain. Donc, à titre d'exemple, lorsque moi je finis de commenter dans ma loge le vendredi soir, ben, si tu te retrouves sur le terrain du CEPSOM le samedi après-midi pour un match de football américain, tu peux apercevoir les hélicoptères des télés, RDS, TVA Sports. C'est rendu comme aux États-Unis. Puis tu regardes ça et tu te dis, waouh, alors que la veille, moi, j'étais sur YouTube. Tu vois? Et c'est pour dire qu'on ne boxe pas dans la même catégorie. On ne boxe vraiment pas dans la même catégorie. Puis au niveau du soccer, la popularité est venue avec les championnats canadiens remporté, on a essayé de diffuser les matchs, mais c'est culturel. C'est culturel. Vous n'êtes pas sur les mêmes canaux. On s'entend que le jour où tu as un match de soccer universitaire que tu peux regarder à TVA Sport, je peux te jurer que la popularité va grandir. Mais si en termes de football universitaire, pas de sport universitaire, ben, ton rendez-vous du samedi, c'est ton football universitaire. C'est sûr que à ce moment-là, les petits canaux Facebook et YouTube, ça va être pour les passionnés avant tout. Et après, tu me diras, oui, même ces passionnés, ils sont pas au courant. Ben, ceci expliquant cela, sponsor, réseau, accessibilité, c'est beaucoup plus difficile. Donc, est-ce qu'il y a, je pense, un intérêt des médias par rapport à cela, je ne sais pas, parce que déjà, il faudrait déjà gagner à populariser la ligue qui se trouve au-dessus, la seconde division canadienne, pour qu'elle puisse être diffusée régulièrement à la télé et tranquillement descendre vers le niveau universitaire. Donc, ça explique aussi pourquoi tu peux être sur le campus et ne pas être intuit du tout du résultat de beaucoup de tes équipes sportives, hormis les équipes de football américain.
Non, je comprends, mais n'empêche, il y a quand même eu un certain regain de popularité dans les dernières années. On voit déjà le soccer en général dans la province, ça commence à monter, oui, lentement mais sûrement, tu as complètement raison, mais n'empêche, on voit quand même un petit regain de popularité, enfin un gain de popularité, on va dire ça comme ça. Ça va un peu mieux. Et pour toi, tu penses que la prochaine étape, ce serait vraiment, ça reviendrait un peu plus aux médias pour pouvoir faire ce pas de plus pour aller encore plus vers plus haut et atteindre de nouveaux sommets, n'est-ce pas?
Oui, bien sûr, c'est plus ton sport il est diffusé, plus tu crées de l'engouement, plus tu crées de l'intérêt, plus tu as du monde au stade. C'est logique. Si tu ne diffuses pas tes matchs, à moins que tu sois une équipe, une université de ville, comme l'université de Sherbrooke, l'université du Québec à Trois-Rivières, tu auras du mal à remplir tes tribunes. Il ne faut pas oublier qu'en ville, lorsque tu es carabin, tu te disputes la supériorité de la ville de Montréal avec les Stingers de Concordia, avec comment appelle, les équipes de McGill, parce qu'on ne peut plus
Les
dire
citadins.
Redmen maintenant, oui, les Citadins de l'UQAM. Et donc voilà, il faut déjà que tu marches sur ces quatre universités-là. Ensuite, tu dois ensuite t'occuper de Trois-Rivières, de Sherbrooke, de Québec. Et donc voilà, c'est tout un dynamisme qui rentre en ligne de compte, et c'est pas facile, facile, facile du tout, parce que tu te bats déjà pour populariser ton université contre ces universités en premier lieu. Et ensuite, par rapport à cela, tu dois populariser ton sport. Donc, c'est par rapport à tout cela que la tendance est difficile. Et donc, après, bon, lorsqu'on monte un support un peu plus élevé, ben, chacun y va de son canal pour démocratiser son sport le plus possible, et attirer les joueurs.
Exactement, mais aussi le fameux dicton, l'œuf ou la poule. Tu sais, tout à l'heure, tu parlais de le football américain ont des médias qui viennent, donc les gens s'intéressent, mais en même temps, les médias vont dire, ben nous, on va pas venir parce que les gens s'intéressent pas. Donc, ça fait un peu le cercle vicieux de la popularité, là, de ouais, ben on en parle même dans le circuit professionnel, là, que les médias disent, on veut pas parler de l'impact parce que c'est moins populaire que les Alouettes ou que les Canadiens, mais en même temps, on se dit, ben, peut-être que ça serait plus populaire si justement vous en parliez. Donc, c'est un peu toute la dynamique de l'exposition. Mais concernant les universités actuellement, c'est lesquelles qui ont le plus de succès, autant du côté masculin que féminin, là, que ce soit au Québec ou au Canada, là?
Du côté féminin, c'est les Carabins de l'Université de Montréal. Après, il y a eu une hégémonie d'environ 4 ans, de 2014 à 2017, du Rougeurs de l'Université Laval, une très bonne génération, très forte. Et ensuite, les 2 dernières années, 2018 et 2019, ce sont les Carabins de l'Université de Montréal qui les ont emportés. Et chez les garçons, de 2014 à 2016, le trophée était l'apanage des citadins de l'Université du Québec à Montréal. Et par la suite, de 2017, 2018 et 2019, les Carabins l'ont emporté au niveau provincial. Mais c'est les Patriotes qui ont gagné le championnat canadien en finale contre les Carabins.
D'accord, donc les Patriotes de Trois-Rivières, c'est bien ça?
Exactement.
Bon, parfait. Donc,
Ouais, j'étais là.
ouais, parfait. Et sur le côté national, est-ce que les universités québécoises aussi sont au-dessus, ou est-ce que tu as vraiment, c'est quand même un autre niveau, ils sont plus forts de l'autre côté? Ou parle-nous un peu sur le côté national, où est-ce qu'on peut mettre nos universités québécoises, bah, maintenant par exemple les Carabins de Montréal, de l'Université de Montréal, pardon, et avant c'était les Citadins, comme tu l'as dit. Est-ce que c'est la même chose du côté masculin et du côté féminin? Juste parle-nous un peu de la place du Québec dans le championnat national.
Alors, du côté féminin, depuis 2014, on a eu deux, si je ne me trompe pas, trois fois le Québec champion canadien, deux fois le Rougeur de l'Université Laval, une fois les Carabins de l'Université de Montréal. Mais au niveau des filles, c'est beaucoup plus compliqué. Le titre, souvent, est l'apanage de plusieurs équipes. Ça peut être UBC une année, ça peut être des équipes de Queens, Ontario, ça peut être en finale des équipes de Cap-Breton. Ça varie, ça dépend vraiment des générations. Le recrutement est féroce. Et tu peux avoir des universités, ben, comme je dis, ces dernières années, c'est Laval ou Carabin, Université de Montréal, qui tombent au premier tour ou qui se rendent, on va dire, si elles ne tombent pas au premier tour, souvent ces équipes se rendent jusqu'en finale. Donc, du côté des filles, ces dernières années, c'est beaucoup plus compliqué. Du côté des gars, depuis 2016, on a eu chaque fois en finale un représentant du Québec, y compris l'année passée où c'était une finale 100% québécoise. Et donc, par rapport à cela, C'était, on va dire que cette santé, en grande partie, on peut dire merci au réseau des entraîneurs qui font du très bon recrutement. Aussi, beaucoup de joueurs issus de la défunte Académie de l'Impact rejoignent le circuit universitaire où ils entreprennent des études et leur qualité de jeu contribue à augmenter justement le niveau des universités, la qualité, la fluidité des actions sur le terrain. Parce qu'il faut savoir que historiquement, les autres universités, par exemple UBC, beaucoup de joueurs des Whitecaps y évoluaient. York, Ontario, beaucoup des joueurs du Toronto FC sont passés par l'université York où ils étudient. Donc, tu avais cette qualité de jeu qui était dure à retrouver dans les équipes québécoises qui étaient constituées pour la plupart bon, d'étudiants qui ont un certain niveau de soccer, de personnes issues de divers pays qui avaient aussi eu un certain niveau de soccer, mais pas ces fameux joueurs locaux qui avaient été formés dans des académies et qui auraient pu t'apporter un rythme, un petit plus, qui aurait fait augmenter le niveau de ton équipe. Pas que sans eux, les équipes n'avaient pas de niveau, ça non, mais avoir de plus en plus de joueurs très, très forts disséminés dans chaque équipe, ça augmente le niveau de ta ligue et ça te donne les résultats que l'on sait au niveau canadien. Ajoutez à cela qu'au Québec, on est une des seules provinces, sinon la seule, qui a un championnat d'hiver. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos équipes, elles jouent sur l'année. Et ça, c'est un processus qui avait commencé depuis une dizaine d'années à peu près et qui a aussi commencé à porter ses fruits parce qu'au lieu de jouer avec tes joueurs jusqu'en novembre et après de leur dire bye et de les voir en août prochain, ben tu prends une pause, tu rejoues ton championnat d'hiver, ça te permet de faire ton recrutement, d'essayer de voir, de tester des choses, quel joueur a le niveau, de laisser au repos certains de tes titulaires pour tenter d'autres combinaisons, puis tu reviens après ta saison d'été avec plusieurs astuces en tête et tu abordes de meilleure façon ton championnat local et ensuite ton championnat canadien.
Et tu as parlé des joueurs passés par les académies des clubs canadiens en MLS qui jouent dans le réseau universitaire. Toi, quel joueur que tu as vu passer comme joueur pro ou semi-pro qui sont connus maintenant, là, qui ont passé par le réseau canadien?
Par exemple, plus proche de nous, qui avait par exemple Aboubakar Sissoko. Sissoko qui évolue à l'IFAX en
KPL.
seconde division, comment on l'appelle déjà, en CPL.
En
Et
KPL.
Ouais.
c'est ça. Et il y a 2 ans, en 2018, Trinity Western. Carabins de l'Université de Montréal. Donc, 2-6 se disputent le ballon sur le terrain. Donc, il y a Sissoko. Et en face, il y a Joel Waterman.
Ah, ok,
Ouais,
super belle.
il évolue en 6 pour Trinity Western.
Oui.
Donc, à l'époque, tu sais, je regardais ça. Puis après, en regardant, là, tu vois, tu dis, OK, drafté de Calgary, truc fautif, Joel Waterman. Fait que là, je regarde et puis, je dis, mais attends, c'était le 6 de Trinity Western quand ils n'avaient pas existé face à nous, mais tu voyais qu'il était au-dessus du niveau. Puis là, tu regardes ça, tu fais, OK. Et donc après, il est parti jouer sa division canadienne. De là, il a été repéré, tout ça. Et c'est ça qui était, et ça qui était drôle, c'est que, après, bon, c'était un jugement purement subjectif et plus chauvin. C'est que, bon, je trouvais que Sissoko, il avait été dominant sur ce match-là. Puis, au niveau du recrutement, c'est Sissoko qui fait le chemin inverse, qui se retrouve dans les Maritimes. Et Waterman, qui n'a pas gagné ce championnat canadien, qui se retrouve à l'Impact. Comme quoi, des fois, la vie, c'est bon, être là au bon endroit, au bon moment, puis surtout, voilà, c'est de répondre présent lorsqu'une opportunité s'ouvre à vous. Donc ça, c'est la petite histoire avec Joel Waterman que je cite souvent. Et il y a bien eu d'autres joueurs qui sont rendus en CPL, Daniel Cogarty de York. Au niveau québécois, il y a eu Gabriel Balbinotti, qui
Ouais,
était
qui joue
pro
à
des Carabins
Forge.
l'année passée, qui joue à Forge. Et plusieurs autres que je pourrais citer. Il faudrait juste que je revoie les faces et les styles de jeu. Et non, c'est il y a ce chemin qui se fait Omar Krem. Putain,
Ouais.
Omar Krem, mon
On
chouchou,
peut
c'est
pas
ça.
oublier Omar Krem, on l'a reçu
Ah.
ici sur CS à l'érable, on l'a reçu en entrevue déjà.
Ah, Omar Krem, ah oui, c'est quand il faisait ses accélérations au Sepsum-là, je devenais chauvin de chez Chauvin. Et donc, à ce niveau-là, non, il y a plein de joueurs qui tranquillement font ce petit pas. Il y a eu André Bonnat de l'UQAM qui s'est retrouvé avec Halifax une année. Il y a eu Shakib Ossine qui a joué à l'UQAM qui s'est retrouvé avec Halifax. Il y a eu le défenseur de Cap-Breton très 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 fort, un Allemand qui était nommé
Charles, Peter Charles, Peter Charles.
Peter Charles, Corey Bent aussi, l'ailier. Voilà, c'est des joueurs, quand tu les voyais jouer, tu t'es dit non, c'est pas possible. Ils vont pas rester à ce niveau-là, ils vont pas rester à ce niveau-là. Et bien entendu, ils ont monté. Je ne sais pas si le gardien de Cap-Breton, Ben Jackson, a pu faire le saut en CPL, mais sur le circuit universitaire, dans ces derniers championnats canadiens, tu trouvais des joueurs au-dessus du lot que tu voyais que forcément, il y avait un débouché qui allait avoir pour eux en CPL. Il y a eu, je pense, peut-être Cavallini, peut-être qu'il a réussi à avoir quelque chose. Au niveau de UBC, il y a eu Thomas Gardner qui était quand même pas mal. Non, il y a beaucoup de joueurs. Lorsque je commente leur match, tu as une petite idée de où est-ce qu'ils vont finir plus tard, genre. Tu sais.
D'accord. Donc tu remarques à peu près aussi le potentiel à un moment donné. C'est sûr, à force de voir des matchs, tu parviens à cerner un peu le potentiel. À propos de tout ça, en fait, t'as parlé un peu d'Aboubakar Sissoko et de Omar Krem. Ben, les deux ont participé aux Highland Games en Canadian Premier League cette année. Ils sont arrivés en finale avec les Wanderers de Halifax et ils ont joué contre le Forge FC. Est-ce que tu penses que la CanPL, donc la Canadian Premier League, la première division canadienne, peut être une débouchée assez intéressante pour les joueurs étudiants du réseau U Sports? On voit qu'il y a déjà aussi la draft qui est déjà mise en place, donc la séance de repêchage. Est-ce que tu penses que c'est une belle opportunité pour ces joueurs-là de continuer une carrière professionnelle?
Bien sûr, effectivement que c'est une belle opportunité parce que c'est au niveau, je dirais que l'exposition qu'offre le soccer provincial universitaire québécois, c'est pas suffisant pour ces joueurs-là. C'est pas suffisant du tout. Et lorsque ils vont à un niveau canadien et que là tu les aperçois sur One Soccer, tu te dis ok. Là, c'est déjà une première étape. C'est déjà une première étape. C'est la crème de encore la crème qui arrive à accéder à ce niveau-là. Même si, entre nous, des fois, j'ai eu du mal à comprendre parce que là, c'est la fibre québécoise qui parle. Sur les 3 derniers championnats canadiens, c'était des équipes du Québec en finale. Et au niveau des drafts, il n'y avait pas beaucoup de joueurs qui étaient draftés en CPL. Bon. Pour X, Y raison, j'ai pas tous les détails, mais je pense par exemple à un joueur comme Pierre Lamotte, je pense à un joueur comme Frédéric Lajoie-Gravel qui a fini MVP championnat canadien 2018. Et bon, ça a été un peu plus réglé avec Gabriel Balbinotti qui a pu être à Forge, également à Aboubakar Sissoko. Il y a une reconnaissance. Justement des athlètes québécois, mais aussi bon, ceux des autres provinces, lorsqu'ils vont à une étape supérieure. Et le fait de pouvoir maintenant, avec la formule de championnat canadien, avoir une chance de se frotter à l'Impact, moi je trouve que c'est excellent. Je trouve que c'est excellent parce que ça te donne un format Coupe de France où tu as un club de national qui, sur un match, ben, tu as des joueurs qui ne sont pas passés pro, mais qui arrivent et qui se disent, vous les professionnels là, on va tellement tout donner que vous allez hésiter à faire jouer votre banc. Et souvent, il y a des surprises comme ça qui se créent parce que les pros, mentalement, ils sont pas prêts à bagarrer contre des joueurs qui, eux, c'est leur seule et unique occasion en combien de siècles de se montrer. Puis, ils donnent tout et ils donnent le maximum. Donc, pour ces joueurs-là, arriver en CPL et avoir la chance d'affronter peut-être des Josie Altidore par la suite, ou comment j'allais dire Tider, mais il est parti, mais ou des Boyan s'ils se qualifient pour le tour suivant, ben c'est une chance à saisir. c'est une chance à saisir et c'est une très bonne exposition selon moi.
Et à travers ces années où tu as la chance de commenter le soccer universitaire, est-ce qu'il y a un entraîneur ou un éducateur qui t'a particulièrement marqué?
Un éducateur qui m'a particulièrement marqué de toutes ces années, ils m'ont tous marqué chacun à leur façon parce que, d'une part, j'aurais dit influencé parce que je termine d'écrire justement un livre qui va résumer toute leur philosophie de management et qui va être destiné autant à ceux qui ont été sous leurs ordres durant des années qu'à ceux qui veulent se rendre à l'université. Donc ça leur servira un peu, si vous voulez, de catalogue IKEA, de dire « Ah, cet éducateur fonctionne comme ci, il fonctionne comme ça ». Et chacun a une philosophie qui lui est particulière dans son contexte particulier. C'est pour ça que je peux difficilement en tirer un du lot, parce qu'il y a des éducateurs qui ont beaucoup perdu, mais qui ont formé des femmes et des hommes qui étaient à même d'être des adultes accomplis. Comme il y a des éducateurs qui ont beaucoup gagné et qui te disent qu'ils ont beaucoup appris de leurs défaites. Donc, chacun a un peu de vécu, chacun a, à travers ses anecdotes, a une histoire à raconter. Je vous en cite une en primeur. C'était l'ancien entraîneur de l'UQTR, l'Université du Québec à Trois-Rivières, Pierre Clermont, qui racontait l'histoire justement comment en 2001, il avait remporté le championnat provincial devant les citadins de l'UQAM. Il avait son gardien qui avait son premier fils à naître le vendredi soir. Et celui-ci était à l'hôpital. Donc, il a une finale, pardon, je dis le vendredi soir, le samedi soir. Il a une finale le lendemain, une finale de RSEQ. Et le coach Clermont, il appelle le capitaine qui se trouve avec son gardien. Et il lui dit, est-ce que... il va bien. On dit oui, il va bien, tout ça. L'enfant est né, tout se passe bien. Il est à l'hôpital. Donc il dit parfait, assure-toi qu'il ne dorme pas. Donc le lendemain, le gardien, tout fatigué, 30 minutes en retard au rassemblement. Tout le monde l'applaudit, parfait. Et lui, il se met à pleurer. Et là, le coach, clairement, il se disait ah ben là, comment est-ce que je vais faire avec un gardien aussi émotif, tout ça, alors que j'ai une finale à aller jouer. Ben, figurez-vous que son gardien lui a gagné sa finale. Il a gagné sa finale, il a tout arrêté. Et justement, lorsqu'on t'évoque, quand un coach t'évoque ça, il te fait comprendre que ça va au-delà des résultats. Parce que le livre, si vous voulez, il s'appelle « Chaque match a une histoire ». Et ils te font comprendre qu'ils sont là, ils ne maîtrisent pas tout, mais leur but à tout prix, c'est de former des hommes et des femmes qui, une fois qu'ils seront partis, seront à même d'être des adultes accomplis. Donc, tirer un plus que les autres serait, selon moi, comment dire, cela serait, selon moi, mais ne pas mettre en lumière le travail de tous ces éducateurs qui nous sortent chaque année des joueurs et des joueuses qui, après, concourent pour être sur les équipes nationales ou pour passer professionnel.
Nous, d'ailleurs, de notre côté, on a eu la chance d'accueillir Josh Sanchez à plusieurs reprises, qui était aux Stingers, et Samir Rib, qui était à l'Université Laval. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de les voir.
Qui était à l'Université Laval?
Samir Rib.
Ah, Samir Rib, mais bien entendu, Samir. Oui, je les ai eus tous les deux, effectivement. Ils y figurent. Et justement, ils sont remplis d'anecdotes à découvrir très, 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 très croustillantes et tellement enrichissantes que tu comprends qu'à travers eux, c'est tout un pan de l'histoire du soccer québécois qui s'est joué sur les terrains de la belle province.
Ben oui, c'est sûr, c'est deux entraîneurs quand même assez intéressants. Maintenant, et avec beaucoup de vécu, hein, beaucoup, beaucoup de vécu, on les a reçus tous les deux, puis on était très contents de les recevoir ici. Maintenant, comme on le sait ici sur Culture Soccer, on a tendance à s'adresser à un auditoire qui dépasse les frontières, dépasse Québec et va en Europe souvent. Et on reçoit souvent des questions de personnes étrangères à l'extérieur du pays qui viennent et qui nous demandent comment je peux, est-ce que tu peux me donner un peu le niveau du championnat au Québec ou au Canada, championnat universitaire au Québec et au Canada, et quels sont, comment tu pourrais convaincre un étranger de venir venir et s'engager dans le programme universitaire de soccer québécois ou même canadien? Comment tu ferais pour les convaincre?
Je te dirais que une finale de championnat canadien ou de championnat provincial serait équivalent à un match de National 2. Peut-être National 1, mais National 2. Pourquoi? Parce que, bon, comme on dit, on a ce cocktail, ce mélange de joueurs issus d'académie, du réseau scolaire qui est sublimé par du management tactique, quelques joueurs issus de l'immigration qui viennent compléter le tout. Donc, un match de National en termes d'intensité et tout. Et pour convaincre quelqu'un, je dirais d'abord, il faut qu'il se mette dans l'optique qu'il va venir pour étudier. Donc, à partir de là, lorsqu'il vient pour étudier, il aura un encadrement, parce qu'il ne faut pas oublier l'encadrement des universités, c'est ce qui se fait de mieux avant le niveau des professionnels. C'est-à-dire que tu es suivi pendant l'année, tu as tes physios, tu as tes... bien entendu, tu as du monde qui te suit pour tes cours et tu es encadré à chaque fois par rapport à ton développement. Lorsqu'il y a du laisser-aller pour ta nutrition, tu as des coachs qui te suivent. Surtout au Québec, tu vas jouer de septembre à fin mars, début avril, lorsqu'on est dans une année normale. Et justement, tu vas être dans l'intensité tout le temps, entraînement 3-4 fois semaine, tes deux matchs le week-end, c'est vraiment intense et tu es vraiment dans une dynamique où quand que tu arrives, tu es obligé de rentrer dans une famille. Donc, bien entendu, il faut se mettre dans la tête que tu ne viens pas là seulement pour jouer au soccer, au foot, tu viens pour décrocher un diplôme et ou pour certains te faire voir pour ensuite rejoindre niveau CPL, rejoindre le niveau MLX, etc. Mais comme vous avez pu le voir avec les différentes personnes que vous avez reçues, même quelqu'un comme Omar Krem qui évolue maintenant en CPL ou Aboubakar Sissoko, Peter Schall, tous, ils ont des diplômes. Ils ont des diplômes et ils montrent qu'on peut autant être assidu à l'école qu'on peut être un athlète. Et pour réussir au Canada, ça demande beaucoup de discipline. Beaucoup, beaucoup de discipline. Le talent, ça va permettre de dominer pendant une saison, mais s'il n'y a pas la discipline qui va avec, il y a le laisser-aller qui va avec, on a très vite frôlé la blessure parce que c'est une qualité qu'on peut reconnaître au niveau nord-américain, c'est que oui, il y a peut-être ce manque de technique et de tactique qui va manquer parfois, mais au niveau de l'intensité, ça y va. Ça y va, ça y va. Donc, il faut arriver physiquement prêt. Ça, c'est très important. La préparation estivale d'avant-saison, il ne faut pas la négliger parce que lorsqu'on arrive début août, il y a à peine 3 semaines pour préparer une saison. Donc, si les joueurs arrivent hors de forme, ils ne peuvent pas compter uniquement sur le talent pour dire qu'ils vont venir à bout d'une saison où ils auront 4 entraînements semaine, 2 matchs le week-end, non-stop jusqu'à mi-novembre pour les plus chanceux. Donc, ils se mettent dans l'optique « je choisis mon programme », ils regardent dans quelles conditions ils peuvent arriver à leur fin en discutant. Ça peut être en discutant avec la personne qui s'occupe du scouting, qu'est-ce qu'ils recherchent, quel diplôme ils recherchent. Et ensuite, ils regardent l'université, la philosophie des coachs, en discutant avec les coachs, quelques entrevues téléphoniques, Skype, Zoom, etc., en se renseignant. Et par la suite, ils viennent et ils font le saut. Et par rapport à justement faire le saut, pourquoi je vais toujours mettre dans l'avant qu'il faut qu'ils se mettent dans l'optique que je viens quand même pour étudier, c'est que s'ils ont un diplôme, l'expérience nord-américaine ne sera pas faite en vain. S'ils viennent juste dans l'optique de dire « Ah, je vais jouer une saison, j'ai tout éclaté, puis après je vais me barrer », ça marche rarement comme ça, rarement.
Parfait, parfait. Et tu as dit quelque chose d'un peu d'assez intéressant avant. Je veux juste spécifier ça à nos auditeurs. Tu as parlé de niveau National 2. Corrige-moi si j'ai tort, mais c'est la 4e division en France. Donc, juste pour un peu replacer un peu nos auditeurs québécois ou canadiens qui se trouvent pas ça un peu bizarre que tu aies dit National 2. C'est vraiment le niveau de la 4e division. Donc, c'est quand même un bon niveau quand même pour un réseau universitaire. Et très intéressant, bien évidemment, pour des étrangers parce que, un, tu as une expérience à l'extérieur, deux, tu es bien suivi, comme tu l'as dit, mais en plus, tu décroches un diplôme si tu es sérieux. Donc, finalement, c'est win-win-win. Puis, si à un moment donné, bah, tu arrives à te faire voir par les recruteurs, que ce soit pour aller en CanPL ou que ce soit aller pour aller ailleurs, bah, c'est encore la cerise sur le sundae, comme on dit, n'est-ce pas?
Exactement, exactement. C'est vraiment la cerise sur le sundae, là, et ça te permet vraiment de dire que voilà, j'ai pas perdu mes années, je suis vraiment venu pour chercher quelque chose. Et après, le petit bénéfice que je peux en tirer, ça va être vraiment d'être justement d'avoir et le diplôme et la chance de pouvoir concourir face aux meilleurs.
D'ailleurs, parlant de la Canadian Premier League et du repêchage et du parcours des joueurs, j'ai une question pour toi. T'sais, moi, je m'intéresse beaucoup à l'avenir du soccer canadien, à la structure que devrait prendre un peu, est-ce qu'on devrait s'inspirer peut-être de ce qui se passe en Europe plutôt que ce qui se passe aux États-Unis. Et j'aimerais savoir un peu ton opinion sur la place que le réseau universitaire a dans ou devrait avoir dans la structure. Est-ce que tu penses que carrément les équipes universitaires devraient s'inscrire dans les compétitions des clubs semi-professionnels comme la PLSQ au Québec, ou est-ce qu'on garde ça en parallèle, mais on pourrait peut-être s'inspirer, par exemple, du format actuel avec, si j'ai bien compris, c'est Maritime, Québec, Ontario et Ouest. Peut-être qu'on pourrait faire quelque chose comme ça dans le semi-professionnel aussi, mais garder le monde amateur, garder le monde universitaire en parallèle. Qu'est-ce que tu penses que devrait avoir quelle importance devrait avoir le monde universitaire dans la pyramide du soccer canadien?
Mais je pense que ça devrait être calqué sur le modèle des États-Unis, de telle sorte que on le voit beaucoup aux États-Unis, au niveau des basketteurs, je visualise plus, et même au niveau des joueurs de soccer, c'est que beaucoup sont issus du réseau universitaire par rapport au draft. Par rapport au draft, beaucoup y sont issus. Donc, ça veut dire que ça te donne des adultes qui, pour la plupart, entre guillemets, ont une certaine éducation qu'ils ont reçue. Donc, après, je dis pas non plus que le fait d'être allé à l'école te rend en termes de sport supérieur à quelqu'un qui n'a pas eu le même niveau d'études, mais ça montre que tu viens d'une structure. Ça montre que tu viens d'une structure. Et si tu le reportes à l'échelle du Québec comme c'est fait. C'est fait plus récemment, si des athlètes ont la chance, comme, et le meilleur exemple, ça va être proche de chez nous, c'est comme on dit, c'est Joel Waterman, c'est d'être dans ton université, de faire tes années, ensuite t'évoluer avec ton équipe civile la plus proche de ta région, t'es repéré par un scout d'une équipe professionnelle, et voilà comment en 2 ans, tu peux passer d'une équipe de Trinity Western qui a fini 4e au championnat canadien 2018 à pro, à joueur pro de l'Impact de Montréal, le club phare de la ville de Montréal. Donc, c'est comme on dit, c'est rendez-vous avec le destin. On va se dire, oui, il y a eu le coup de bol, etc., etc. Non, la personne s'est mise dans les structures, a suivi les étapes, a été patiente, puis après, il goûte au rêve de jouer à un niveau pro. Et moi, je pense que c'est un chemin qui se fait tranquillement. La diffusion de la CPL, c'est une chose. Lorsqu'on pourra allumer son poste comme on veut en semaine ou les samedis après-midi et avoir le match de CPL comme on a le match de EPL en Angleterre le samedi ou le dimanche matin, ben, tranquillement, les gens ils vont commencer à s'y intéresser et voir que ah ben, finalement, c'est pas si loin que ça, le monde pro. Mais encore, il faut se donner ces chances-là. Il faut continuer à capitaliser sur ce circuit universitaire qui puisse fournir aux divisions inférieures canadiennes, et tranquillement, un joueur gravit les échelons et puis après, le rêve, il est permis. Hein.
Oui, ben, c'est sûr, comme tu l'as dit, le rêve, il est permis. Mais en parlant de rêve, tu as parlé brièvement un peu de ton livre un peu plus tôt. Tu as donné quelques petites anecdotes et ainsi de suite. Est-ce que tu peux nous en parler davantage? Est-ce que tu es à quelle étape? Est-ce que tu cherches quelque chose de spécifique maintenant? Comment on pourrait t'aider? Bref, Voilà, parle-nous un peu de ton livre et de ton petit rêve à toi, là.
Alors, le petit rêve, je dois dire que c'est venu, merci à lui, c'est venu d'une initiative de Samir Grimm, qui, lorsque, d'une discussion avec lui il y a un an maintenant, et quelques mois, je lui disais, ben, il me disait, ben, tu sais, il n'y a pas de visibilité de ce que les éducateurs ils font au niveau universitaire et tout, tu sais, c'est pas facile de s'en sortir par rapport aux autres sports et ça gagnera à avoir comme de la visibilité. Et puis, t'es là, comme on s'était parlé, puis on avait tilté, il dit, tu sais, ça prend des gens comme toi qui suivent, qui font le championnat canadien pour en parler. Donc, là, tranquillement, le projet, il a germé tranquillement. Et puis, je me dis, tiens, pourquoi pas? Parce que je lisais un livre de Daniel Riolo, Secret de coach. Et il y avait beaucoup de coachs qui étaient interrogés, qui parlaient de leur façon de faire, leur façon de voir. Et là, je me suis dit, mais tous ces coachs québécois qui ont coaché pendant des années, qui ensuite disparaissent dans l'oubli, est-ce qu'ils ne gagneraient pas à être mis en lumière un peu? Genre que les gens ils puissent savoir comment ils fonctionnent, etc. Donc j'en ai parlé un tout petit peu autour de moi. Puis plein d'anciens athlètes, ils ont dit, ah, on aimerait savoir qu'est-ce que le coach y pensait, etc., etc. D'autres y allaient avec la dynamique de se dire, ben moi j'ai un fils par exemple qui a 7-8 ans, une fille qui a 10 ans, j'aimerais bien savoir dans quelle université je devrais l'orienter. Là, j'ai commencé à me triturer les méninges, donc commencé à envoyer des mails, commencé à me déplacer à Québec, à Sherbrooke, à Lennoxville, dire à tel coach, est-ce que ça t'intéresse de parler de toi? Est-ce que ça t'intéresse de parler de ta vie de coach? Comment tu as géré des situations de crise? Comment tu gères l'athlète qui vient? C'est quoi ta philosophie? Donc, tu sais, c'est comme, et ils ont gentiment ouvert leurs portes pour la plupart, et c'est comme ça que chaque match a une histoire est née. Ça, c'est un bouquin d'environ 300 pages d'anecdotes. Et là, je l'ai terminé. Je suis quasiment au stade de l'édition, de voir quel éditeur ça intéresserait justement de faire profiter à toute la communauté autant des gens qui ont fini. Donc ce livre s'adresse à ceux qui ont fini. Ce livre s'adresse également à ceux qui sont encore joueurs. Et ce livre s'adresse également à ceux qui vont intégrer les universités dans quelques années. C'est en cela que la philosophie des coachs est très importante. Et eux, ça servira tout simplement de catalogue IKEA, comme je disais un peu plus tôt dans l'émission. Et là, pour ces coachs-là, ils auront leur marque cimentée à vie dans quelque chose de papier. Parce que il faut se dire une chose. La plupart des coachs m'ont dit, heureusement que ce projet a été fait maintenant parce qu'il n'y a pas d'archives. Il n'y a pas d'archives autres que leurs coupures de journaux, leurs souvenirs, etc. Donc je donne par exemple un exemple, Lionel Joseph qui a été entraîneur de l'Université Concordia féminine dans les années 90 et qui a donné la seule médaille au championnat canadien de l'Université Concordia féminine. Ben, il n'avait plus de souvenirs quasiment de certains matchs et il devait fouiller, il devait fouiller. Donc, c'est vraiment mettre tout ça, coucher tout ça sur papier de telle sorte que c'est tous ces éducateurs-là, ces 24 éducateurs qui ont été approchés, ils ne sombrent pas dans l'oubli et ils puissent ainsi attirer beaucoup de personnes vers le secteur universitaire.
C'est sûr, c'est sûr. Donc, c'est une très, très belle initiative, Freddy. Merci beaucoup, Freddy Amegavi, d'avoir pris le temps d'expliquer un peu ton projet et ainsi de suite. Un guide, donc, en fait, pour tout ce qui est soccer universitaire, qui serait quand même assez intéressant à avoir. Donc, c'est sûr que si jamais il y a quelqu'un qui est intéressé, bah, vous pouvez toujours contacter Freddy, qui va pouvoir à ce moment-là vous répondre. Comment on fait pour te contacter, Freddy, si jamais on a besoin de te contacter pour une chose ou pour l'autre?
Alors, ben on peut me contacter ben, si c'est par Twitter en me rejoignant sur mon compte Twitter Mewanu. Égale même chose également via Instagram ou via mon adresse email fredamegavi@hotmail.com ou même sur Facebook Freddy Amegavi. Les quatre canaux, je réponds souvent très rapidement. Puis je donne
les infos ayant maintenant le contact de beaucoup de coachs, genre je peux orienter vers les structures disponibles et ça peut aller autant des joueurs que des scouts. Comme ça permet autant aussi aux entraîneurs sur le circuit québécois d'avoir accès à de plus en plus de personnes qui peuvent leur envoyer des vidéos, qui peuvent les appeler, qui peuvent les interroger et qui peuvent, eux, ils vont pouvoir ainsi donner des précisions sur leur façon de travailler et après, c'est tout le monde qui en sort gagnant.
Ben oui, effectivement, effectivement. Freddy Amegavi, merci beaucoup d'avoir pris le temps. C'est très, très, très enrichissant et très apprécié de te recevoir.
Merci à vous.
Daniel, merci encore d'avoir été là pour une semaine de plus après nos vacances. Merci d'être toujours présent, Daniel.
Merci Hadi et surtout merci à Freddy pour cette entrevue qui était très intéressante. J'ai appris beaucoup de choses et je te souhaite bonne chance avec bon succès avec ton livre.
Merci beaucoup.
Parfait. Merci à tous de nous avoir écoutés ici sur CS à l'érable, le podcast 100% canadien de Culture Soccer. Et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci encore et à bientôt.